Désolé, je pensais vous faire écouter un CD. C'est remis à la semaine prochaine. Parce que je me rends compte que j'ai dû l'oublier. Nous allons donc aujourd'hui travailler sur les deux documents que je vous ai distribués la semaine dernière. Et tout d'abord, derrière moi, il est écrit donc Senri no Michimo.
C'est pas ce que j'avais dit la fois dernière.
J'avais un peu différé. En fait, donc Senri, ni le lieu, Michi, le chemin, Senri no Michi. Et peut-être déjà vous avez appris à utiliser une particule qui s'appelle wa. Or, c'est pas wa ici, c'est mo. Et wa, on peut considérer que c'est une particule isole, qui distingue, qui sépare, qui prend quelque chose à part. Tandis que mot ne sépare pas, ça ouvre. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus cette limitation que crée wa. Que quand je dis watashi wa, c'est bien pour dire, les autres horaires, maintenant il ne reste que la personne qui parle. Et donc ici, mot. Parfois on va traduire vers ce mot en français. Donc, senmi no michi mo. Même un chemin de 10 000 lieues, eh bien, même ce chemin commencera toujours par un premier pas. Donc le sens n'a pas changé, c'est juste la forme qui... Il y a plusieurs formes à ce petit proverbe, mais c'est la forme, peut-être c'est la forme la
mieux. Une porte.
Pour la retenir.
Okay.
Si je regarde maintenant ce document, donc, je vois sous... Alors ceux qui ne l'auraient pas encore, hélas, j'ai demandé la reproduction, je ne l'ai pas retrouvée dans la salle des photocopies, donc veuillez patienter. Donc ici, sous une forme qui peut se produire, je l'ai, ce tableau des 50 sons, écrit avec des katakana. Les katakana diffèrent des hiragana, mais quand on réfléchit en français...
On va l'entendre parce qu'il parle, mais c'est pas fort.
Il y a des formes différentes, on y est habitué.
Et même sur l'attention, ça nous semble évident. Et pourtant, quand on regarde la forme, on voit très bien que c'est pas la même chose. Et si je fais,
par exemple, ceci, ça. Pas l'impression,
a priori, si je devais moi apprendre l'alphabet, hein, comme l'ont fait tous les pays qui ont été alphabétisés lors de l'expansion de l'Occident et de la colonisation, il a fallu qu'ils apprennent l'alphabet, et c'est le cas des Japonais qui ont dû l'apprendre. Donc, il y a un tas de petits phénomènes qui peuvent les surprendre. Donc ici, nous l'avons sous ce tableau sous la forme des katakana. De nos jours, comme dans ce fascicule, on le présente plus couramment sous la forme des hiragana. Donc le but, c'est de montrer que ça peut se présenter aussi comme ça, rien ne s'y oppose. D'autre part, il vous est présenté d'habitude sous la forme verticale, puisqu'on écrit verticalement, mais rien ne m'empêche de le présenter, ce tableau, sous la forme verticale, en ayant tout d'abord mes 5 voyelles que nous avions évoquées la fois dernière, aï. Et ceux qui, sur mon assistance, ont été au CERPEM, au service audiovisuel, écouter des cassettes, ont donc pu entendre chacune de ces rangées, Aï ou Eo, Kaki ou Kiko, avec cette accentuation qui ne va pas changer pendant toute la série, en descendant ici. Si c'était verticalement, on ne descend pas, on va de droite à gauche, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes allé au laboratoire, et c'est obligatoire, parce que si vous voulez avoir une bonne note, il faut maîtriser le bon son, le timbre, maîtriser ce qu'est la langue japonaise. Et donc, il faut que vous puissiez reconnaître, que vous puissiez me dire après, puisque je vous ai dit au début, ça monte toujours là, dans ce tableau. C'est Aï, Aï, Kaki, Sashi. Toujours il y aura une petite note au-dessus. Puis ensuite, ça reste à cette hauteur, ça redescend. Et je voudrais que vous me disiez où ça redescend. Dans ce que vous écouterez, pas en théorie, mais vous, à votre oreille. Et donc, on a ce tableau avec des trous, puisque malgré tout, la langue japonaise, il s'est passé des phénomènes, et curieusement, il y a deux endroits où il y a des trous, et de plus, il y a des endroits où j'ai mis, pour l'alphabet, entre parenthèses, des formes, parce qu'elles ne se prononcent plus, en fait. On garde la forme, mais en réalité, on ne les prononce plus ainsi. J'aurais dû faire d'ailleurs comme ça pour le wo aussi, parce que wo, à la fin, il ne se prononce pas wo, il se prononce comme ça, en fait. Nous tournons la page. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être, que vous devez connaître par cœur à l'écrit et que vous devez connaître par cœur à l'oral et donc dont vous devez maîtriser l'accent. Vous êtes capable de réciter comme vous pouvez réciter au moins, je ne sais pas si vous pouvez réciter beaucoup de poèmes, mais au moins l'alphabet, vous êtes capable de réciter jusqu'à Z en théorie. C'est pas sûr. Nous arrivons là. Ici, nous avons cette fois-ci des hiragana. Vous avez sans doute un peu étudié. Mesdemoiselles, je vous invite, comme vous êtes très nombreux en début d'année, il faut un peu de discipline. Non pas la discipline imposée du haut, la discipline intérieure. Vous faites attention à ne pas trop bavarder entre vous. Parce que si on était un petit groupe, j'écouterais ce que vous dites, on dirait sans doute, mais là on est très nombreux et donc je ne peux pas porter, avoir trop de sentiments qu'on bavarde de tous les côtés. Donc, il est écrit en haut le poème Ilora Uta. Ilora Uta. Ilo, en japonais, couleur. Ilo. C'est aussi un second sens lié à la couleur, c'est l'éros. Eros. Ilo. Ilora. En fait, c'est la particule wa, mais on va la lire ha parce que c'est dans les temps anciens. Et ensuite, on a le mot uta. Et uta, c'est chant. Ça sera aussi bien le chant du 8e siècle, les poèmes japonais très anciens, que de nos jours dans les karaokés, parce que les gens chantent. Et que c'est aussi bien la poésie que les chansons. Donc, toujours dit ici, Iloha Uta, c'est un poème extraordinaire que nous aurons l'occasion d'examiner et qu'il faut aussi connaître parce qu'il a longtemps été l'ordre dans lequel les mots étaient classés, dans lequel on classait tout. Et cette fois-ci, il est présenté verticalement. Ça veut dire que je commence du côté droit et je vois. Maintenant, vous devez sans doute avoir appris quelques kana. Je crois qu'on va assez vite. Hein. Et donc, I, vous êtes connu, l'eau aussi, wa, encore. Bref, vous devez être en mesure, je crois, de lire. Alors, on va tester. Vous allez lire, vous allez répéter après moi. Iloha nioe. Oh, putain, pourquoi c'est cassé comme ça? Oui. Il est mis comme ça, oui. Iloha.
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 Nioe to.
Nioe to.
Chiri nuro.
Chiri nuro.
Wakayo.
Wakayo.
Tareso.
Tareso.
Senenaram.
Senenaram.
Uino.
Uino.
Okuyama.
Okuyama.
Kefu.
Kefu.
Koete.
Koete.
Asaki.
Asaki.
Yumemish.
Yumemish.
Eibo.
Eibo.
Sesu.
Sesu.
Le « m », il est rajouté. En fait, parce que c'est pour... c'est parce qu'on a besoin de placer ce signe, mais en fait, normalement, il n'est pas dedans. Nous aurons l'occasion, tranquillement, de traduire, analyser ce poème qui est extraordinaire. Mais retenons que, à côté de l'ordre Aiueo, avant l'époque moderne, c'était celui-ci qui dominait. Les dictionnaires, même de nos jours, si vous allez dans certaines salles de théâtre, vous verrez que les places dans les allées, c'est marqué I, Do, Ha, tellement c'est... Et surtout, il a un sens. Le classement des mots sous la forme d'un poème qui a un sens et un sens qui n'est pas qui est très profond. Donc nous aurons l'occasion de le voir. Nous tournons la page. Et nous voyons le quart supérieur, parce que si j'avais mis la page entière, ça deviendrait encore plus petit, on ne pourrait même plus identifier les signes. Hein. Il faudrait une photocopie de la taille du journal. Bon, hélas, je n'ai pas senti la nécessité d'aller jusque-là. Nous avons sous les yeux un quotidien. Déjà, vous pouvez presque deviner la date, parce que en haut, sur une ligne horizontale, je vois marqué 2006. Bon, je me doute que c'est l'année. 10, si peut-être deviner que c'est le mois, et puis 11, ben, que c'est le jour. Et donc nous sommes le 11 octobre 2006, il y a quelques années, et c'est un journal dont j'ai le titre ici, c'est le Tokyo Shimbun. C'est un journal régional, parce que c'est un journal qui n'est que le journal de Tokyo. C'est comme chez nous, on a le Parisien, je crois qu'il est censé être sur Paris, à moins qu'il ait des versions à travers toute la France avec d'autres noms. Il s'appelle Aujourd'hui ailleurs. Le Tokyo Shimbun, lui, reste fondamentalement un journal de Tokyo. Je vous ai peut-être dit, la fois dernière, que la presse japonaise était extrêmement vivante, extrêmement vive. Elle vit vraiment. Elle n'est pas soutenue par des fonds extérieurs, par le gouvernement, etc. Les tirages des journaux, le plus grand tirage, Yomiuri Shimbun, 12 millions d'exemplaires. Je n'ai pas les chiffres exacts de cette année précise, mais c'est de l'ordre de 12 millions d'exemplaires, avec édition du matin, édition du soir. Puis ensuite, il y en a un autre, l'Asahi Shimbun. Ça, ce sont les quotidiens nationaux. À côté de ça, nous avons aussi une presse locale qui cohabite avec. Et on a ici le Tokyo Shimbun. Ils ont en gros le même format et de la même manière. Tout ce que je vois, et peut-être ce que vous voyez, donc on voit des chiffres arabes. Est-ce qu'il y a des signes alphabétiques qui se promènent quelque part? Ça peut arriver. Oui? Moi, j'en vois pas. Ah oui, fax! On a l'adresse. N'est-ce pas? Donc, ils sont sympathiques, parce que là, on a le numéro de téléphone pour les lecteurs, s'ils veulent demander un renseignement, quelque chose. Et puis, il y a le numéro de fax, si on veut.
Et l'adresse internet.
Il y a l'adresse, email aussi, bien sûr. Ah non, attendez, il y a le site, hein, HTTP, là, deux points. C'est le site, c'est pas l'adresse email. Et attention, parce que le site, il faudra savoir le prononcer. Il faudra le prononcer en français, comme je vais le faire tout de suite, là, HTTP. Non, pas du tout, ça. Ils ne vont pas comprendre. Hein. Il va falloir apprendre aussi, durant une semaine, à prononcer les signes alphabétiques tels que le prononcent les Japonais, c'est-à-dire sur le modèle de l'anglais. E, B, chi. C'est chi, hein. D'accord, chi. Vous pas d'accord? Faut sortir. E, B, chi. C'est pas ABC, personne ne comprendra.
E, B,
chi. Comment dire?
Chi.
Au 19e siècle, dans les années 1880, ça pouvait être ABC. Certains se référaient au français. Donc vous mettez ABC. Mais de nos jours, c'est l'anglais qui domine. Donc si vous voulez indiquer à un ami japonais votre adresse, votre email par exemple,
vous
prononcez sans erreur les lettres. Hein, si vous pédalez, ça va. Hein. Donc il faudra bien prononcer aussi de l'alphabet. C'est de l'anglais prononcé à la japonaise. Hein. Donc vous maîtrisez sans doute un peu, au moins, je suppose, l'alphabet prononcé en anglais. Et donc il faut simplement s'adapter, et non pas A, B, C, N, non pas A, B, C, N, mais A, B, C, D, F, F.
Et deux points, comment tu dis?
Et alors, effectivement, peut-être, vous voyez que c'est comme ça. Quand on voit, donc on a les gros titres, fond noir, après des plus petits titres, après on a un chapeau, puis après on a un petit texte, et alors on descend comme ça. Et alors on descend, des petites marches là, on a le texte qui va descendre. Et donc vous voyez que c'est... Il n'y a pas que des hiragana. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que des hiragana. Il n'y a pas que des katakana. Il y a aussi ces signes que l'on appelle donc, en japonais kanji, et qui, ce qu'on appellera nous sinogrammes, et qui donc, par leur tracé, sont... Enfin, je ne sais pas ce que vous éprouvez, vous, devant, peut-être un sentiment d'exotisme, hein, comme lorsqu'on passe devant un restaurant chinois, avec ses caractères qui peuvent vous sembler beaux ou pas beaux, hein, sur votre c'est à votre goût. Mais toujours est-il que je suppose que chacun d'entre vous a un regard qui est neuf, mais c'est ce regard neuf avec lequel vous allez progresser dans l'étude du japonais. Et puis, ces signes qui ne font pas sens pour l'instant, dans cette colonne noire, là, et bien petit à petit, ils vont faire sens. Vous allez... Certains vont être très fréquents, donc assez rapidement, vous les reconnaîtrez. Par exemple, le premier, assez vite, dès ce semestre, vous allez le connaître. Les autres, il va falloir patienter. Et ça va nous amener à la page suivante.
Chu-naka.
Qui est une...
Chugoku, le premier, c'est la Chine.
D'accord.
Les deux premiers, les deux.
La petite bavarde est continue. Oh, waouh, oh. C'est le poulailler là-haut. Oh. Hein? Mademoiselle. Oui, vous, oui. C'est, à mon avis, c'est des gens qui ne peuvent pas demeurer longtemps. Ceux qui bavardent comme ça, ils sont là, en disant, on s'amuse un peu, on reste, on ne travaille pas sérieusement, et forcément, on va rater une marche et on ne continuera pas. Donc, comparaison entre quotidien et magazine, puisque on a des quotidiens, bien sûr, vous avez dit une très grande quantité, donc citation écrite, le Japon. Hein. Vraiment, on lit beaucoup. Les Japonais, il y a des mangas, mais il y a aussi. S'il y a des mangas, c'est parce que les gens sont lecteurs, en plus. Ça va ensemble. Hein. Et il y a aussi des magazines hebdomadaires et puis des mensuels. Ici, derrière le mot magazine, d'ailleurs, quel est le mot Zashi, c'est les deux. Hein. C'est aussi bien. Hebdomadaire que mensuel. Je veux dire qu'il peut y avoir des petites différences et donc nous avons un tableau statistique de la fréquence des signes. Combien utilise-t-on donc dans la presse de caractères chinois ? C'est-à-dire, moi qui me lance dans l'étude du japonais, combien vais-je devoir, avec ma petite cervelle, retenir de signes pour être en mesure de lire un journal comme je peux lire 20 minutes ou autre chose, ou une revue comme celle que je lis. Combien de signes dois-je maîtriser ? Pour en avoir une idée, on a ce tableau qui date un peu, mais en gros, le principe reste le même. Et cette courbe que vous voyez, où on a ici le nombre de signes, 1000, 2000, 3000, cette courbe, c'est la même quand on fait la courbe du lexique d'une langue. Si vous faisiez le français, la fréquence des mots, en gros, on vous dira 1000 mots. 2000 mots, 3000 mots. Et donc il y a les 1000 mots là. Et donc la fréquence, pour faire la totalité, vous voyez que ça tend vers l'infini. Hein. Comme en français, le lexique. Moi je ne connais pas tous les mots du français, je connais certains, vous en connaissez d'autres. C'est infini, quelque part. Hein, dans un petit, on croit tout connaître, mais quand même, c'est sans fin. Inversement, on a une certaine quantité, 1000, je vois que avec 1000, ma courbe, j'arrive ici. Je suis déjà presque avec 1000. Hein. Avec 1000 signes, je me débrouille, vraiment 1000 signes. Ça veut dire que je crois que vous en apprenez déjà 400 en première année. Ça veut dire que si vous faites votre calcul, là, 400, on est par là. Hein. 400, hein, vous êtes par là. Et déjà, en théorie, quand vous feuilletterez en fin d'année quelque chose comme ça, déjà là vous aurez une capacité d'identification. Peut-être que vous ne pourrez pas comprendre le sens, mais on doit parler de. Ah, on parle d'essai nucléaire.
On passe de la Chine.
Kaku, ça veut dire le nucléus, le noyau. Et ça veut donc dire nucléaire dans les histoires de. Il y a la clé de l'arbre, et puis il y a un petit élément, parce que le noyau, c'est lié au bois. Donc il y a l'arbre, et puis il y a un petit élément, et cet élément kaku, vous voyez où je suis ? Pas dans la colonne noire, juste après, et je vois la clé, vous ne connaissez pas encore, je vois cet élément, c'est l'arbre. Étymologiquement, nous aurons l'occasion de voir, ce sont les branches qui s'élèvent vers le ciel, puis les racines qui plongent dans la terre, c'est la forme que l'on observe. Les documents les plus anciens gravés dans des sceaux.
Monsieur ?
Oui ?
Je voudrais en fait avoir la traduction des ordonnées et des abscisses, ce qui est écrit à côté.
La traduction des ordonnées. Ah, oui, hein. Donc, la traduction, elle est écrite au-dessus. Hein. Comparaison entre quotidien et magazine. Donc, les quotidiens, c'est une ligne. Les magazines, c'est des pointillés pour l'usage des caractères chinois. On les compare. Ma traduction pourrait être améliorée. Oui, l'usage et la fréquence. Donc, en bas, j'ai une colonne, on me dit 1000 caractères chinois. Ensuite, 2000, en bas, hein, 2000 caractères chinois. Ensuite, 3000. Hein. Et on ne continue pas après, mais 4000, 5000, etc. Puisque la question que vous pouvez poser, légitimement, c'est de dire, mais combien y a-t-il de caractères chinois? À moins que...
50 000, ce serait...
Ça n'a aucun intérêt. Je ne pose pas...
Tellement... 50 000 ? 60 000, ouais.
Est-ce que vous vous demandez combien de mots en français ?
Pourquoi on dit 3 600 ?
Est-ce une question qu'on pose ?
Non, il y a des caractères usuels, il y a des caractères non usuels.
D'accord.
Je vais quand même dire la réponse.
C'est
dans 2600, les dictionnaires 145 les plus
d'accord.
complets, érudits, on a longtemps été autour de 50 000 et ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce que en Chine même, on va dans tel village, puis on découvre que dans quel village, depuis toujours, on utilise tel signe, et que c'est le... Et donc, dès lors qu'on veut l'enregistrer, ben on l'enregistre. Et donc, il est extrêmement rare, mais dans tel village en Chine, depuis des générations, on a ce caractère, les gens, ils se gardent pour eux, si on ne veut pas l'enregistrer dans le dictionnaire, on ne le serait pas, mais il existe. Et donc, il existe. C'est comme des mots. Peut-être il y a des mots qui n'existent que dans tel village des Vosges, un petit mot de... qu'on appelle nous des dialectes, avec notre mépris parisien de dire la langue des campagnes c'est des dialectes, mais en réalité c'est des langues aussi, légitimes que la nôtre. Mais donc dans un petit village, il y a peut-être un mot que tout le monde sait, mais quand les Parisiens arrivent, on ne le dit pas parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils ne les regardent pas. De la même manière, donc, les caractères chinois, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, c'est là le problème lié à l'informatique, c'est que quand on a créé... Enfin, l'informatique a été une histoire...
Ouais, ça marche bien.
Donc, l'époque moderne a été pour les caractères chinois,
une
épreuve douloureuse.
Bah, tous les soirs, quand je coupe mon PC, il y a toujours une mise à jour. C'est à cause du japonais, ça ?
Parce que il a fallu...
Pas à jour, peut-être. Bah, si. C'est depuis que j'ai mis au japonais.
Une écriture manuscrite, tout le monde écrivait à la main. Qu'on reproduisait en le gravant sur bois, et on avait donc en gravant sur bois, comment dire, l'autographe, la forme, on avait la personnalité de la personne avec. On véhiculait la graphie de tel homme, de lettres, etc., etc. Et à l'époque moderne, imposée par, pour se mettre à l'heure occidentale, il a fallu passer, pour créer une presse puissante aussi, à la typographie, c'est-à-dire faire des caractères qui rentrent dans des petites machines, dans des petites boîtes. Et on met tel caractère à tel endroit. Et vous imaginez ce que c'est quand, à l'époque des caractères en plomb, et ça, c'est encore à cheval, en 2010, c'est fini, mais longtemps, c'était le plomb, des petits signes de plomb,
genre,
qu'il fallait fondre, n'est-ce pas ? Qu'il fallait
ça,
bien ranger,
savoir
où ils sont. Et si vous mettez un peu de désordre, comme l'ont fait une fois en 1936 les militaires, mécontents d'un article du journal Asahi, ils sont les militaires, l'armée de terre, là, ils sont arrivés, ils ont renversé toutes les casses, ça s'appelle des casses, hein, là où étaient rangés les caractères chinois. Alors, boum, des petits machins qui partent partout en plomb, là. Et ça veut dire que le lendemain, le journal n'a pas paru. Alors que nous, avec notre petit alphabet, on est quand même, même si on a des grandes. En plus, il faut toutes les tailles. Hein. Il faut grand, petit, encore plus petit, etc. Et donc, vous voyez que pour le Japon moderne, cette épreuve, là, tous les jours, faire ça, avec des ouvriers exploités, là, tous les soirs, hein, pour le lendemain sortir le journal, des hommes un peu fiers, hein, qui ont leur nom propre, des nobles, hein, pas question de simplifier le caractère. Hein, ils veulent que s'il y a un petit point ici, ils veulent qu'il y ait un petit point. Et donc, il faut atteindre ce niveau. Et donc, ce fut quelque chose quand même de très douloureux. D'autant plus que, d'un certain côté, il faut aussi qu'on puisse le lire, les gens. Et donc, si on doit lire, il faut que l'éducation suive aussi. Parce que sinon, autrefois, avant, comment ça se passait avant? Ben, c'était à la demande. Les gens, il y avait toutes sortes d'écoles. Dans les petits villages de pêcheurs, on apprenait à lire et à écrire pour les besoins du village. Donc on connaissait tous les mots du poisson qu'on vend. Éventuellement, s'il fallait commercer, on savait écrire une petite lettre pour remercier, pour souhaiter la nouvelle année, etc. En montagne, ben, c'était un peu différent. Et il y avait une éducation qui n'était pas imposée par le haut, avec des programmes imposés du haut, mais une demande qui venait d'en bas. Donc, ce sont les villages qui demandaient à ce qu'on appelle les guerriers. C'est ce mot, vous allez entendre parler, les guerriers du 100 mètres. Donc, durant l'époque d'Edo, on a des lonin. Moi, je sais que quand j'ai appris les japonais, j'étais plutôt cinéphile et j'avais vu écrit R-O-N-I-N. Et donc, longtemps, je connaissais l'histoire des 47 ronins. C'est un chef-d'œuvre. Il faut le voir. Si on y marquait 47 ronins, il faut y aller. Mais vous ne direz plus ronin. Vous direz lonin. Et les lonin, ce sont des bushi, donc des samouraïs, 100 mètres. Alors, il n'y a plus de mètres. Et donc, ils ont gardé ce statut pendant toute l'époque d'Edo, pendant 200 ans et plus, et ils avaient le droit de porter le sabre, le droit même de s'en servir si on leur manquait de respect. Mais leur étiquette, leur éthique faisait qu'ils ne commerçaient pas. Donc il ne faut pas gagner d'argent avec du business. C'était aussi ça. En revanche, enseigner, oui, c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire. Et donc, souvent, on demandait à un guerrier 100 mètres, c'est-à-dire quelqu'un qui était un peu pauvre, oui, qui n'avait pas de revenus, et donc, éventuellement, il s'instaurait professeur pour les petits-enfants qui venaient, oui. Et il leur apprenait, il aura, Nigro et tout, à écrire, et les petits-enfants donnaient des cadeaux, parce qu'il n'y a pas de salaire, mais les gens du village, on donnait du riz, on donnait à manger, on donnait toutes sortes de choses, ouais. Et ça fonctionnait ainsi. Ça, c'était l'éducation populaire. Par ailleurs, il y avait l'éducation de l'élite, masculine, elle, c'était des classiques chinois. Donc on apprenait des textes un peu austères avec une grande profondeur et ça c'était la discipline de l'éducation des gens de la classe militaire, mais elle assise, quoi, ceux qui avaient trouvé une position sociale importante dans la société. Les Lonin étaient entre les deux. Ils avaient cette culture, mais ils ne la véhiculaient pas, ils n'enseignaient pas, ils en disposaient, mais ils la vulgarisaient, eux, auprès de la population du petit peuple. Et cette éducation, ces petites écoles de village, on en trouvait du nord au sud du Japon. Avec des petits manuels imprimés qui circulaient aussi, souvent on les empruntait, on les louait, on les recopiait, on les rendait, on ne les achetait pas. Tandis que dès lors que le Japon est confronté au modèle occidental, il faut une éducation comme en Occident, c'est-à-dire sur le modèle Jules Ferry, éducation obligatoire. Il faut aller à l'école, il faut partout, les enfants sont forcés d'aller à l'école. Ça provoque même des révoltes, il y a des paysans qui ont brûlé certaines écoles, puisque l'école arrive comme une sorte d'invasion là, de l'étranger. Les us et coutumes des gens des campagnes, qu'est-ce que c'est que cet espèce de bâtiment un peu exotique, l'école, et qu'est-ce que ça sert à qu'est-ce qu'on fait
comment les enfants, dans le fais.
L'idée d'avoir quelqu'un qui parle comme je suis présentement là, devant plein de gens pendant un certain temps, semblait insensé. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était la pratique avant. Les enfants, ils écrivaient. Et puis quand ils avaient écrit tout seul, ils montraient au maître, le maître disait c'est pas bien, on recommence, c'est pas très bien. Et c'était pas un enseignement comme ça, une personne contre 100 personnes. Mais dès lors que l'époque moderne, il faut maintenant enseigner à tout le monde tout, c'est-à-dire géographie, histoire, physique, mathématiques, tout le modèle occidental, puisque le Japon relève le défi de l'Occident et ne souhaite pas être colonisé. Donc il faut absolument rattraper l'Occident pour se confronter à lui. Donc, école obligatoire. Et donc, école obligatoire s'associe aussi à l'effort d'éducation de la population. Il faut être au courant. Et donc, la presse se développe dans ce cadre. C'est pourquoi certains vont dire, mais si on développe l'éducation pour apprendre les mathématiques, la chimie, la physique, le droit, on n'a pas besoin de tous ces caractères chinois, il faut apprendre directement en anglais, ou même en japonais, en kana. Donc tout ça, on n'a plus besoin, puisqu'on est la profonde philosophie chinoise, bon, on peut faire ça quand on a le temps, mais on n'a pas le temps. Les enfants du Japon, ils passent un temps considérable à apprendre des milliers de caractères chinois, ça leur endommage le cerveau, pendant que les petits occidentaux, eux, ils arrivent avec leur alphabet, ils apprennent des choses utiles, pratiques, efficaces. Donc, on se demande s'il ne faut pas abandonner les caractères chinois. En 1900, il y a donc deux siècles, en 1900, eh bien, il y a une grande réforme de l'éducation, et dans le cadre de l'éducation nationale japonaise, on fixe à 1000 caractères les signes qui devront être enseignés à l'école. Mais on a fait un petit pourtour, parce que si on fixe pas de cadre, c'est l'anarchie. Il faut rationaliser. Donc, effort de rationalisation, 1000. Et puis, après, cet effort de rationalisation va se heurter à l'histoire que va connaître le Japon à partir de la guerre russo-japonaise, le conflit avec la Première Guerre mondiale, le conflit ensuite avec la Chine, ensuite la guerre avec les États-Unis, etc. Bref, tout ce qui va se passer là va à nouveau influencer ces questions-là. Au lendemain de la guerre, dans la défaite, quand tous les Japonais vivent maintenant sous la tôle, hein, parce que toutes les villes, Tokyo et toutes les villes, les gens vivent maintenant dans la boue, les tôles, on crève de faim, et ceux qui peuvent, ils partent à la campagne. Et bien, dans ce cadre-là, à nouveau, on redémarre, en partant de zéro, et les Américains, qui occupent le Japon, envoie des missions d'éducation, et les Américains étaient tentés de penser que si ils avaient eu affaire à des ennemis si fanatiques, si terribles, c'est sans doute parce que c'est à cause de cette écriture. Les gens ne comprenaient rien. Ils étaient complètement fanatisés par l'empereur, et ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas réfléchir par eux-mêmes. Enquête dans les campagnes, savez-vous lire? On fait une enquête, on procède. Et les résultats montrent que c'est ambigu. D'abord, les paysans, ils ont peur, hein, quand on vient les enquêter. D'abord, ils se sentent coupables. Hein. Vous ne savez pas lire, c'est la honte. Donc, ils font un grand effort. Bref, les résultats sont que, bah oui, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus. Toujours est-il que l'hypothèse de romaniser l'écriture, qu'aurait pu, d'un coup de poing, imposer les Américains, les Japonais avaient bien imposé le coréen dans la péninsule coréenne, les Français, le français en Indochine ou en Afrique, et ben les Américains auraient pu d'un coup de poing sur la table dire, écoutez, à partir de maintenant, dans les écoles, on enseigne l'anglais, on parle l'anglais, allez. Ça serait pas fait tout de suite, mais ils auraient pu pousser. Or, ils n'ont pas poussé si loin. Ce qui fait que de l'autre côté, les Japonais ont réfléchi, eux, maintenant que le nationalisme et le fanatisme étaient passés de mode, à rationaliser les choses, et donc on a fixé une première norme de 1875 caractères qui est devenue de nos jours 1945 pour les administrations et l'éducation. Et pour le programme scolaire, de nos jours, il y a 1006 caractères qui sont répartis année par année. En première année d'école primaire, le petit enfant qui a 6 ans, il va en apprendre, je vous donnerai la liste, 40 ou 58, 40 première année, puis 60 la seconde année, puis 120 la seconde année, comme ça. Et il va couvrir ses 1000 caractères en 6 ans. Alors, revenons à cette histoire d'informatique. C'est qu'on était encore au plomb il n'y a pas longtemps. Moi, quand je débute en japonais, dans les années 70, je me retrouve dans une université japonaise, c'est des pinceaux partout, des crayons, le buvard, la bouteille d'encre, le porte-plume, partout. On est manuscrit. Et donc, à l'époque, la photocopieuse commence, mais elle fait des photocopies un peu bleues et pas parfaites. Et donc, on a des renéotypes. Donc, on est obligé de renéotyper. Et il y a énormément de petites imprimeries de quartier pour, lorsqu'on veut imprimer un faire-part, quelque chose d'un peu, qu'on veut faire un petit texte, on va dans une petite imprimerie de quartier où là, ils ont, dans cette imprimerie, 8000 caractères en plomb là, à disposition pour imprimer toutes sortes de choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va inventer les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs. Et donc, ça va permettre maintenant de procéder par le calcul binaire, petit 0 ou un petit 1, ou un plus et un moins. Et c'est comme ça que on va être capable maintenant de coder un tas de choses. Et quand vous êtes devant votre ordinateur, tout ça, ça repose sur ça. Tout ce que vous avez en informatique, c'est des 0 et des 1 dans la machine. C'est l'électricité. Je passe ou je passe pas. C'est fondé là-dessus. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Si ça vous intéresse, vous lisez des livres. Et donc, à partir de là, on a réussi tout d'abord à mettre
création de l'alphabet. Binaire, c'est ça.
On a réussi au début à avoir l'alphabet dans des machines énormes et on arrivait à gérer des trucs et commencer à imprimer, à voir sur l'écran des petits textes et en anglais souvent et on arrivait à utiliser. Le japonais exclu. Jusqu'au jour, ah tiens, il y a une place pour les katakana. Ah. De même pour le français, on a eu droit à un accent aigu. On n'avait pas le droit parce que c'était l'anglais. On a permis l'accent aigu, puis je peux quelques petites choses du français, de même les katakana. Et puis, ça évolue, ça se perfectionne, etc. Jusqu'au jour où on a réussi maintenant, comment dire, l'alphabet pour être codé a besoin de, que je ne me trompe pas, j'ai oublié, mais un octet. Un octet. Octet, ça veut dire quelque chose. Octet. Non ?
Si.
Les octets. Méga octets. Oui. Non ? Dans l'ordinateur, là, de mémoire. Les octets. Octets, c'était du 8. Puisqu'on compte en binaire, il y a une façon de calculer assez particulière, hein, assez vite, que des 0 et des 1. On fait tous les calculs 0 et 1. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de 2, c'est 0 ou 1. Alors, 0, 1, ensuite 10, ensuite 11, ensuite, après 11, je suis obligé de maintenant dire 100, et après 110,
101,
101, pardon, 101, et puis 110,
110, 111,
111. Mais vite, rapidement, ça fait des. Ça s'étire en longueur, là. Heureusement, l'ordinateur ne s'étire pas. Nous, au bout d'un moment, on. Toujours est-il que on est arrivé à un stade où les Japonais se sont dit, ben, sur un octet, 8. Donc, un octet, c'est 8 bits. Et bits, c'est 1 ou 0. Hein. Et donc, avec 8 octets, on pouvait mettre que l'alphabet. Hein. Mais à un moment, on a dit, mais attendez, on peut doubler. On met 2 octets. Alors maintenant, ça fait des quantités énormes. On peut mettre plein de choses. Et c'est là qu'on a pu mettre des caractères chinois. Et les caractères chinois, maintenant, comment les mémoriser? Comment les imprimer, ces petites formes-là? Comment mémoriser ces choses? Eh bien, grâce à nouveau à l'informatique, ce qui auparavant occupait des salles entières, ben, dans le creux de la main, on a des petites puces. Et il y a le dessin de ces signes qui est mémorisé dans ces petites puces. C'est miraculeux, mais c'est comme ça. Et c'est ainsi que. Si j'accélère un peu, eh bien, on a fait une norme et on est arrivé à un stade maintenant où une norme qui s'appelle, il y a la norme japonaise toujours propre au Japon, il y a la norme propre à la Chine, etc. Mais une sorte de synthèse qu'on appelle Unicode, c'est le code mondial de tous les signes de l'écriture. L'anglais, indien, arabe, toutes les écritures sont dedans. Et ce Unicode est une sorte d'association fondée par Microsoft, Mac, bref, les grands fabricants américains. Donc au début, ils ont fait pression sur le Japon pour qu'ils disent, bon bah, vous nous donnez un cadre, hein, 30 000 caractères, allez, adieu, j'ai vendu, hein. 40 000, bon, on négocie, 50 000, bon. Bref, les fabricants américains exigeaient une limitation. Mais c'est comme si on nous disait en français, bon, vous les Français, on vous donne combien de mots? Bon. 20 000, ça suffit, hein, pas plus. On arrête à 20 000, ben, on n'est pas d'accord. On crée des mots. Notre langue est vivante, on veut utiliser les mots qu'on veut. Par conséquent, il y a eu des frictions et il semble qu'on s'oriente vers une possibilité maintenant, avec Unicode, d'avoir un système ouvert, c'est-à-dire la possibilité dans le futur de créer soi-même des caractères si on le souhaite, comme je peux créer des mots quand j'ai envie de créer un mot. Puisque la langue fait de mots qui vont tomber en désuétude tandis que d'autres apparaissent. Et donc, dès lors que l'informatique est apparue, cette période d'épreuve lourde de gérer l'écriture japonaise pendant, disons, tout le XXe siècle est réglée. Et maintenant, sur les petits portables, les jeunes utilisent des caractères chinois sans difficulté. Ce qui fait que la nécessité de les limiter, maintenant, c'est intérieur. Hein. Éducation, ça a toujours un sens. Mais plutôt que limiter, maintenant, l'éducation, c'est rationaliser. Quoi. Après, on peut laisser ouvert quand on est adulte. Hein. Et donc, maintenant, on est libre. La difficulté, effectivement, c'est le rapport entre, comme en français, si moi je m'exprime dans une langue pédante, plein de mots rares, personne ne me comprendra. De la même manière, une personne qui utiliserait que des caractères chinois rares, ben, il s'adresse à un certain milieu, pas à d'autres, et donc il ne sera pas compris de certains, et ça, c'est comme ça. Donc, sur cette feuille qui ne servait que d'un... Alors, attendez, en dessous, on a... Ça n'a pas de grand intérêt, mais maintenant, alors, à nouveau, il y a ma traduction... Comparaison de l'emploi des caractères chinois entre quotidien et magazine. Et alors, c'est vrai que là j'aurais pu mettre quelque chose, mais c'est pour vous plonger dans la langue japonaise, quoi, hein, pour pas que vous sentiez trop. Il faut maintenant savoir que bientôt, peut-être au mois de juillet, vous êtes à Tokyo. Hein, vous arrivez à Narita, ou à Osaka. Ou même, si vous êtes pressé, vous y allez au mois de à Pâques. Hein. Bah, les cerisiers sont en fleurs. Et si vous êtes encore plus pressé, vous y allez en décembre. Et donc, je sais que certains sont en hiver. Mais
nous, on n'a pas de vacances.
C'est pas un argument.
Noël.
Noël, c'est tout. Les Pâques, je pense. Pâques.
Vous allez voir des entreprises, voilà, moi j'ai une famille japonaise. Aidez-moi. Et donc, on me dit ici que les 10 caractères les plus fréquents, il y a 10 caractères qui sont les plus fréquents, et ben, ils occupent 10% dans les journaux et 8% dans les revues. Ensuite, c'est les 50 les plus fréquents. Parmi les 10 les plus fréquents, je sais qu'il y a le caractère du soleil, Ji, et puis Ron, l'origine, c'est le mot Nippon. Je crois que c'est les deux premiers au niveau fréquence. Puis après, d'autres.
Je t'en prie, qu'on enregistre parce
qu'il couvre 10%. Et puis après, on a...
Il a tellement envie, lui aussi.
Ouais, ce tableau utile, intéressant, je ne sais pas, mais je l'avais présenté. Je vois qu'avec les 1000 caractères les plus fréquents, du rang élevé, je couvre, là c'est marqué, 93% des journaux, 90% des revues. Maintenant, avec 3000 caractères, je couvre 99%. Au niveau pourcentage ici, 80% des journaux, c'est 52 caractères. 80% des magazines.
De près, je vois pas très bien. C'est quand je vois devant avec mes lunettes.
Et pour avoir 100%, on arrive quand même à 3000. Mais ce qui fait que le nombre est élevé, c'est les noms propres. Il y a des noms communs. Les caractères sont brisés, mais quand c'est des noms de famille. Là, c'est comme, regardez, chacun d'entre nous, on a des noms griolais, ben, certains, j'ai entendu avant. Donc, c'est un mot comme ça. Donc, si on imagine qu'on est un nom de caractère chinois, ben, de la même manière, le nom d'une personne, tiens, je ne l'avais jamais vu avant. Donc, ça augmente le nombre des signes dans la
ouais,
presse.
Ouais, c'est vrai.
Et au quotidien. Il nous reste combien de temps là? 5 minutes. Jusqu'à quelle heure? Ah oui. C'est parce qu'il fait très chaud, hein. Il fait très chaud. Comment? Non? Vous êtes très nombreux. Quand on vient de l'extérieur, on a l'impression d'arriver dans un zoo, là. Dans la ménagerie où il y a les
fous. C'est aussi ça, toi aussi, le problème. Moi, j'ai des hyènes à la place des traits.
On est quand même...
Ouais, c'est normal.
Donc, c'est normal. Ça fait ça aussi chez nous.
Quand même un peu...
Je disais, il y a eu un problème. Alors, parce que je peux pas enregistrer les programmes.
Passer maintenant
quand tu tapes
à ce document qui est lié concrètement au travail que je vous demande de réaliser de façon individuelle dans les meilleurs délais, mais prenez votre temps, allez au CERPAI, dans la mesure des trous que vous avez dans votre emploi du temps, vous en profitez pour aller écouter ce qu'on appelait autrefois des cassettes. Ce n'est
tu peux
plus
y aller si tu veux.
Cette forme.
Je pense que je vais y aller. Ça me gonfle.
Et comme Boulogne, côté bois de Boulogne, 409. L'entrée. Mais sur 9 ou 6, vous allez voir tout de suite qu'il y a des affiches là en haut, il y a des, vous allez reconnaître le monde un peu exotique. Vous trouverez aisément.
Tu peux prendre les titres et les avoir chez toi.
Permanence, et vous demanderez à la personne, en sous-titré japonais, ouais. Première année, monsieur Griolet.
Ou en français Manu, enfin, si c'est le premier plus récent. Quoi.
Donc, on vous donnera. Attention, parce que comme c'est marqué 0, c'était marqué initiation 0. Si vous demandez 1, ce sera la seconde. Donc d'abord, celle-là, cette page-là. Vous allez l'écouter. Alors, pourquoi, à nouveau, je reviens sur. Là. Pourquoi on a isolé ça? Parce que. Je crois que ça vous intéresse pas. C'est pas vraiment super rôle.
C'est quoi toujours?
Ça ne passionne pas tellement ce tableau.
Non, c'est sûr.
D'abord, ça m'a écrit un peu. Pourquoi ce tableau est comme ça? Et qu'on a mis des petites choses en guillemets.
Il a bien où?
Parce qu'à l'origine, en japonais, on n'avait pas besoin d'écrire des petits guillemets. Dans le japonais, d'avant l'époque moderne,
non.
Comme en tête de mot, on n'avait jamais de consonne sonore.
Normalement, il n'y a rien ici.
Je sais, mais pourquoi il y a mis
au début d'un mot, oh on n'avait que des consonnes sourdes, sauf exception. Ça veut donc dire qu'on n'avait que des choses comme K, comme Ki, comme Ta, comme Ki. On n'avait pas en tête de mot des choses comme Da, comme Zu, comme Ki. C'était la langue japonaise. Même aujourd'hui, les mots de base sont comme ça. C'est à l'intérieur des mots qu'il y avait des consonnes sonores. Donc, on pouvait les deviner. Comme de nos jours, à la rigueur, on met un accent aigu sur les mots français, mais vous, peut-être que quand vous tapez des SMS, j'en sais rien, mais peut-être que vous ne tapez pas les accents aigus. Mmh. Toujours?
Non.
Pas toujours, hein. Donc, en fait, on devine. On n'a pas besoin. Dans certains contextes, peut-être, vous pouvez deviner. De la même manière, on n'avait pas besoin de ce qui est en bas, en japonais. On devinait. Et donc, quand vous avez des textes très anciens, calligraphiés, qui ne sont pas dans le tableau du haut, on devinait.
Ah.
Et donc,
c'est quoi ça?
Quand vous assisterez, quand vous irez voir.
C'est le oui.
Des expositions.
C'est ce qu'on a supprimé, c'est ça?
Ouais.
De calligraphie, par exemple.
Ah.
Vous verrez des kana, des hidakana, que vous ne saurez pas bien lire, mais même si vous regardez, il risque de ne pas y avoir le moins de petits guillemets nulle part. Parce qu'on devine. On devinait. De nos jours, en revanche, on le met systématiquement, hein, c'est fini cette époque. Mais dans les temps anciens, on le mettait parfois. Il y a une époque où on le met parfois, on le met pas. C'était un peu fou. C'était la liberté. Parce qu'il n'y avait pas un ministère de l'éducation qui imposait la loi.
C'était l'anarchie.
Grâce, c'est code. Donc, nous sommes là et on a des sons de base ici, on a des sons sonores en dessous. Ici, on a des choses un peu plus compliquées parce que pour une même syllabe, on a eu besoin de compacter plusieurs kanas. Et souvent, ce sont des syllabes qui viennent plutôt, je ne dirais pas forcément du chinois, mais enfin, c'est pas le japonais pur qu'on rencontre dans la poésie japonaise. Hein. En japonais, il y a une espèce de tradition. Le poème japonais, on n'utilise que des mots japonais, pas des mots venus du continent, des mots venus de Chine. On avait nettement cette distinction. Et nous verrons au cours de ce semestre que les gardiens de la langue pure japonaise, ce furent les femmes. Voilà, pas les hommes. Les femmes ont gardé la langue japonaise. C'est pourquoi les grands classiques japonais comme les
ouais,
notes
quoi,
de l'oreiller, écrit par une femme, ou Genji Monogatari, écrit par une femme, ou encore d'autres écrits par une femme, etc. Toute la prose a été écrite par des femmes en prenant soin de ne pas utiliser des mots venus du continent. tandis que les hommes, eux, apprenaient le chinois, donc faisaient même des poèmes en chinois, donc étaient en contact direct avec les questions liées au continent, et puis l'administration se faisait en chinois, et tout le système était calqué sur le modèle continental de la capitale chinoise du temps. C'était la civilisation de l'époque, donc il fallait absolument assimiler et adapter au Japon et connaître tout. Ce qui fait que parfois il y a des livres de cette époque qui ont disparu en Chine, ils n'ont été conservés qu'au Japon. Certains textes de médecine ou autres. Donc ces prononciations-là, Kyakyukyo, 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 toutes ces petites séries, c'est pas partie du japonais là, du japonais idéal. Alors, et puis ensuite on a dessous, bien sûr, avec les en haut, consonne sourde, en bas, consonne sonne. En jaune, un point difficile de la prononciation japonaise, c'est la colonne H. 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 Puisque en français, H, c'est une décoration alphabétique. On a que le. Ça crée effectivement. Au niveau des liaisons, on distingue. Parce que s'il y a H aspiré, on ne fait pas la liaison. Mais sinon, moi, je ne prononce pas le H. En revanche, on le prononce en anglais. On le prononce en allemand. En japonais, il faut absolument le prononcer. Et pour nous, c'est un peu difficile puisque pour nous, ce n'est pas une consonne à part entière. Comment dire, le fait de dire ha, j'ai pas l'impression que ce soit comme ka. Comme pa. Pour moi, pa, c'est pas comme ka, c'est vraiment pa. Je sais pas. Te, ta, chi, to, c'est pas comme po, hein, c'est net. Tandis que po, hebi, 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 et puis hebi, 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 c'est le serpent. Le serpent, hebi. Et puis hebi, c'est les crevettes. Hebi, hebi au Kodasai. Donnez-moi les crevettes. Des beignets, hein, j'aurais des sushis, hein, des sushis de crevettes. Quand vous irez à Tokyo au mois de décembre, au mois de juillet, éventuellement, si vous cherchez bien, vous trouverez un seul restaurant à Tokyo où on peut manger du serpent. Et puis, le sang est frais. On boit un verre de sang. Enfin, si vous avez... Moi, je suis rentré, hein. J'ai vu de l'extérieur, c'est tout.
Mais quoi voilà. Mais il n'est pas rentré chaud.
Et dans un verre, et c'est aphrodisiaque. Et comme c'est un animal à sang froid, ça doit être très beau. Et ensuite, on a une cuisine délicieuse qui va. Donc, il ne faut pas confondre. Hebi. De même, nous avons ra. Et quand je prononce ra, 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 hama, Yokohama, 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 je suis allé en vacances à Yokohama, Yokohama, Yokohama. Et ama, c'est la pêcheuse de perles. Ces femmes, hein, un peu qui disparaissent maintenant, mais qui autrefois plongeaient dans l'eau. Très en profondeur pour pêcher les perles, pour pêcher n'importe quoi. Ama, c'est aussi la nonne. Il y a les moines et il y a les nonnes dans le bouddhisme. Ama. Tandis que Hama, c'est la plage. Hama. 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 Yokohama. Si je parle avec les japonais, pour éviter les ambiguïtés, il faut être capable de. Hama. Donc à nouveau, au laboratoire, attention à ce point, soyez vigilants, vous, pour essayer de l'intérioriser. Moi, j'en arrivais presque à me dire, tellement nous, c'est pas dans notre cerveau, ce H. quelque part, c'est pas ancré là, comme les consonnes auxquelles on est bien familier. Par conséquent, je me disais presque qu'il faudrait le prononcer comme ha. En arabe, il y a ha. Donc ha, c'est aussi, c'est là, hein. Ça frotte légèrement à l'arrière. Il faut, on ne frotte pas avec excès, hein, c'est pas. On va dire hama, mais hama. Mais de même, hein, je connais une japonaise qui chante des chansons. Quand on chante des chansons, ça veut dire des chansons françaises.
Chanson.
Le mot chanson veut dire chanson française. Alors, elle, les Japonais ont un mal fou à prononcer le R. Non. Rien. Parce que R, c'est un truc, nous on dit rien, comme ça, ça sort sans effort. Hein. Pour eux, c'est l'horreur. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien.
Rien. C'est pas rien.
Il n'y a rien. 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 Alors ils font des graines de merde d'eau, gargarisme. Rien. De toute manière, nous, le rat, il faut faire attention parce que. Intellectuellement, on le comprend, mais quelque part, le sortir spontanément, on peut avoir quelques difficultés. Alors, ha, on vient de voir. Chi, c'est presque plus facile. Chi. Parce que, à la rigueur, chi, ça se prononce presque comme chi. Chi, chi, chi. C'est presque au même endroit. C'est bon, au même endroit. Hein. Quand je fais ha, puisque la voyelle frotte à l'arrière, ha. Maintenant, quand c'est la voyelle chi, la frise, là où ça frotte, c'est pas à l'arrière. Maintenant, c'est dans le palais en haut, presque au même endroit où je fais chi, shima, mishima. Ce qui fait que les gens de Tokyo, aux yeux des gens d'Osaka, considèrent que les gens de Tokyo prononcent chi. Et il est vrai que quand vous dites une personne en japonais, ça se dit. Si je veux être un modèle de prononciation, je dirais Shito. Shito. Shito ga imasu. Il y a quelqu'un. Shito. 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 Shito ga imasu. Shito. Que je dis Shi, hein, ou Shi, je vois très bien qu'en réalité tout le monde comprendra. Donc, à la rigueur, je n'aurai aucune difficulté avec Shi. Aucune difficulté. Puisque ça va glisser sur Shi. Donc, je me retrouverai toujours. Coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot ? Le mont, le Fujiyama. Que vous verrez. Bah, l'idéal, c'est de partir maintenant pour le Fujiyama. Vous abandonnez les coups. Vous avez un billet. Les lampes. Et au moins, en automne. Le ciel est bleu, limpide. Et alors là, vous allez voir une montagne superbe. Et c'est le Fujiyama. Yama, la montagne. Et non, Fuji, le mont Fuji. Les Japonais diront plus couramment Fuji-san. Mais bon, d'abord. Toujours est-il que pour prononcer Fuji, je dois m'interroger sur mon français. Quand j'utilise la consonne F en français, les linguistes vont dire c'est une labio-dentale. Labio parce que ce sont les lèvres et dentale parce que ce sont les dents. Et donc, lèvres du haut touchant les dents du bas, la façon de faire, la fatigue. La biodentale. Or, en japonais, si je fais une labiodentale, les Japonais comprendront très bien, mais eux, de manière générale, ne feront pas une labiodentale, mais une bilabiale.
Bilabiale.
Comme si vous souffliez un peu de poussière sur votre vêtement. Fou. Oui, ça. Fujiyama. Futatsu al.
Futatsu.
Fukal. Fushin. Fou. 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 à l'heure, on l'a vu, hein. Ebi.
Ebi.
Ça frotte, hein. Ebi, ça frotte pas, hein. Maintenant, c'est une voyelle plus grosse. Ebi, je fais sortir le. Maintenant, quand je dis Ebi. Ebi, ça marche. Ça frotte quelque part. Où ça frotte. Peu importe d'ailleurs où ça frotte, hein. C'est où vous voulez faire frotter vous. Puisque vous écoutez le son du japonais et vous ne
faites pas ce son-là.
Et 20
secondes.
C'est votre bouche qui va le faire. Peu importe la réalité, la théorie. Si au moment où vous le faites, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est que quand vous irez au restaurant,
je dois avoir encore 5-6 mégas.
Ou bien, si vous allez en prolongement à la de votre sortie en
je sais pas,
hiver,
formé, non,
vous allez jusqu'à Okinawa. Et Okinawa, sur les petites îles, il y a plein de serpents partout. Et donc, comme le plein de serpents, c'est des
hippies. MP4.
Et d'ailleurs, c'est un peau de serpent qui est l'instrument de musique qu'on utilise à Okinawa. C'est de la peau de serpent, là. J'ai l'impression d'être dans le hall d'une gare.
Il a dit, on se croirait dans le hall d'une gare.
Je crois que pour l'initiation zéro,
monde pas.
Nous avons vu ce qu'on devait voir nous ensemble. Maintenant, c'est à vous, au CERPEM, de regarder. Et nous passons à l'initiation 1. Et donc, j'ai quelques points à mettre en valeur pour les exercices que vous allez faire au CERPEM. Rien.
Arrêtez, je t'entends. Il est assez nerveux, là.
Alors, une de vos camarades souhaite poser une question, donc on va l'écouter. Bonne question que j'avais rapidement évoquée la fois dernière. Dans le dictionnaire, ce sera car. Par exemple, si j'étais dans mon dictionnaire, j'aurais le mot kaki. On l'a vu ensemble, kaki, la fin de la même. Kaki.
Kaki, c'est smart.
Vitre et le kaki, hein. D'accord. Donc, mon dictionnaire, je vois le mot kaki. Après, j'aurais kagi. Donc, après kaki, j'aurais kagi. Kagi, c'est
la clé.
La clé.
La clé.
Donc, dans mon dictionnaire, aussitôt après les sonores viennent les sons. Ici, je ne sais pas comment c'est dit. Il faudrait que je réécoute parce que je ne sais pas si le. Je crois que normalement la personne japonaise va lire tout, c'est M. Fuse, l'auteur, hein, va lire tout d'abord ici. Je suppose qu'après elle va lire séparément ses colonnes. Je suppose, hein. Et donc, normalement, ce tableau, c'est ça la base. Hein. Et c'est à l'intérieur de ce tableau qu'est inclus ce qui est en dessous. Quand on est à K, dedans, en relief, il y a le gant compris. Donc quand je suis dans un dictionnaire et que je dois chercher des mots, je vais à qui, et puis après, je vais y trouver qui dedans. N'est-ce pas ? C'est bon ? Pardon ? Après le qui, ce sera le qui. C'est ça, dans les mots. Si j'ai kaki, j'aurai kagi. Après le mot kikai, j'aurai le mot kikai. Donc, ça se suivra de cette manière. D'accord ? Alors, nous sommes maintenant à l'initiation numéro 1. Et nous sommes justement en jaune, j'ai souligné celle-ci, c'est le Gagikugego, dont j'avais signalé la fois dernière qu'on le nasalisait, ce qu'on ne fait pas en français. Donc, à nouveau, ça heurte votre sensibilité, puisque c'est un peu ridicule de faire Gagikugego. C'est un peu bizarre. On a l'impression de faire quelque chose d'un peu bizarre, quoi. C'est pas élégant, on est... Surtout qu'on n'arrive pas à le faire.
C'est bon comme point.
Parce qu'en français, il n'apparaît qu'à la fin de mots anglais comme parking. Le parking. Il faut se mettre au parking. Parking. Tu as te garer dans le parking et puis après tu viendras voir. Car parking. Et donc, c'est pas nia, hein. c'est pas un nion, hein. C'est pas un pognon. C'est pas de nion, hein. C'est pas de saison. Hein. C'est gagigugego. Comme il est nasal, ça veut dire qu'il y a un peu d'air qui va sortir par le nez en même temps. Donc ça fera gagigugego. Pourquoi il faut le savoir, même si vous n'aimez pas le prononcer, je ne le prononcez pas, ça ne me dérange pas. Mais il faut le reconnaître à l'oreille.
Ouais,
or, ici, on va avoir des exemples, c'est ici, là. On va les lire ensemble. La colonne, l'avant-dernière. Non, pas l'avant-dernière, là. Trois lignes avant la fin. Kedo. Il va marquer go d'abord. Hein. Go.
Go.
Go, ça veut dire 5. Go. En dessous, écoutez bien. Gongo. Gongo. Répétez après moi. Gongo.
Gongo.
Dorita. Ah, gongo, Iko. J'y reste après-midi. Gongo. Et donc j'écris gogo.
Ah oui, gogo.
Je peux prononcer gogo. Aucun problème. Mais il faut que, comme les Japonais qui vont être autour de moi vont dire gomo, 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 gomo. Si mon oreille n'est pas un peu exercée, pour moi ça devient la salade d'une langue étrangère. Parce que quand vous entendez dans le métro des gens parler à côté de vous, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Non seulement vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, mais vous n'êtes même pas capable d'identifier les sons. Là, il y a ce genre. Les gens se demandent ce qu'ils disent. Là, ça a l'air complètement mystérieux. Donc, gongo, kango.
Kago.
Kango.
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 Kango ni ilete kudasai. Mettez-le dans le panier. Kango. Panier. Indécent. Ango.
Ago.
Ango.
Ango.
C'est un mot dont on ne se sert pas tant que ça. C'est le menton. C'est pas un mot. Enfin, moi j'ai pas l'occasion de parler de menton. Le seul mot que où je connais un mot, c'est. Parce qu'en japonais, il n'y a pas un mot qui distingue la moustache de la barbe. Shinge, c'est les deux. Shinge, c'est qu'il y a des poils. Hein. Comme ils sont à berbe par rapport à nous, et qu'il y a trois petits poils, on peut se raser toutes les semaines, ça suffit. Toujours est-il que. On peut avoir de la moustache, dans ce cas-là, on distinguera. Ah, Ango Shige, c'est la barbe, c'est les Shige du menton. Voilà le mot apparaît. Ango Shige. Si je veux préciser. Ango Ki. Après moi, là, vous répétez. Ango Ki.
Ango Ki.
Ça veut dire le mouvement. Ensuite, Kani.
Kani.
Kan.
Ça veut dire Kagi aussi. Hein. Mais, Kami on a quoi? Kami wa doko? Kami. Kami wa doko? Kami. Kami wa doko? Kami wa doko? Kami. 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 Kami wa kudasai. Kami. 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 Kami.
Kami.
Kami. Kami. Kami. Il est en réunion. Le directeur est en réunion. Kami. La réunion.
Kami. Ah.
Il y a un Shino Kaigi, hein. C'est le sommet à Montréal, là, il y a une réunion, Kaigi. Oui, les chefs d'État des 21 pays. Kaigi, qu'est-ce que c'est ? Ini.
Ini.
Igi. C'est le sens des choses, la signification.
Igi. Je comprends ni moi.
Ensuite,
même il dit mal.
C'est
bien Igi.
Kumi. C'est un clou.
Kugi.
Kumi, un clou. Kumi. À nouveau, à l'oreille, là où nous peut exercer, parfois nous hésiterons, s'il y a un petit examen oral, par exemple, la professeure japonaise peut s'amuser à vous dire Kuni. Kuni. Kuni.
Kuni.
Kuni, c'est le pays.
Ouais.
Kumi, c'est la clé.
Kugi.
De même, tout à l'heure, c'était quasiment.
Kugi, la clé.
Pareil.
Kugi. Ouais, mais il vient de dire Kugi la clé.
Kumi aussi, on peut le mettre.
Kumi.
Kani, Kaigi, Igi, Kumi. Garku, et en casser en tête de mot, jamais, hein. D'accord ? Jamais en tête de mot. C'est à l'intérieur d'un mot qu'il est nasalisé, hein. Et à nouveau, retenez bien, il y a des jeunes japonais, parfois on leur demande leur avis. Ah, j'aime pas trop quand c'est nasalisé, moi j'aime pas. Je trouve ça un peu pas élégant. C'est beau, hein. Donc ils ne nasalisent pas. Mais par exemple, NHK, la norme, la référence d'information, langue standard, on nasalise. Donc il faut reconnaître à l'oreille, même si vous-même ne nasalisez pas forcément. Et on arrive à 2. Puisque pour la 1, à nouveau, alors il y a du, comment dire, ah, quand je regarde à nouveau la 1, première ligne, je vois des mots. Donc sur le modèle Aiueo, Kakikukeko, Kakikukeko. Des mots où c'est signe et surtout c'est son apparaît.
Kage, c'est.
Parce qu'on ne peut pas commencer l'étude dans l'écriture et dans l'histoire si on ne comprend pas déjà la valeur des sons. Là. On est, ça, ça soit bien balayé, voyez, oui, progressif.
Kage,
donc nous sommes à ce stade.
Signification.
Kage, c'est long.
Non, c'est long.
Ah, bah oui, c'est long.
Nous arrivons au 2. C'est maintenant Sashi Seto,
Daji Seto,
oui, peut-être
Daji Seto. Pourquoi on met Daji Seto? Vous voyez où je suis? Vous me suivez ou pas? Donc il y a un creux. Et pourquoi il y a un creux? C'est parce que après Da, ça se prononce de la, en japonais moderne de la même manière que Ji. Donc, Da, Ji, Zu, De, Do. Ça veut dire phonétiquement, ça n'existe pas. Phonétiquement, il n'y a pas, on ne distinguera pas Ji de Ji, ni Zu de Zu, en japonais moderne. En japonais ancien, oui. En japonais moderne, non. Donc, il y a un creux. D'accord ? Alors, ce qui m'intéressera peut-être, il y a tout d'abord en bas, première ligne, le mot kusa. Kusa. Kusa, c'est l'air en fait. Kusa. Et alors je ne dis pas, nous avons vu ou, hein. La dernière fois, on a vu que ou, c'était pas le, les lèvres arrondies du français quand on dit bouchou, hein, chou, hein, etc. C'est pas arrondi là, il n'y a pas d'effort d'arrondir. Donc c'est ou. Quelque chose qui comme ça, la langue reposée maximum, aucun effort à faire, puis sur quelque chose qui est. Donc ici, que ça, que ça. Et en plus, la voyelle, quand elle est coincée, placée entre deux consonnes sourdes, est tendance, a tendance à être muette. Comme en français, le mot petit, quand vous dites, il y a un petit, vous direz, il y a un petit, il y a un petit, vous n'allez pas dire. Ah, j'ai lu un petit livre. Non, en général, la plupart des gens diront j'ai lu un petit livre. Donc, notre E est muet dans bien des contextes. Le OU devient quasiment muet dans bien des contextes aussi. Dans ce contexte-là, pour dire l'herbe, on dira souvent XA. Et quand vous irez à Tokyo, après avoir mangé du serpent, vous irez un peu plus loin, vous irez jusqu'à Asakusa. Asakusa, c'est l'endroit de Tokyo le plus merveilleux. Et dans ce nom, il y a le mot herbe. Les herbes de surface. C'est là que toute l'époque d'Edo, les courtisanes, les geishas, les estampes, tout, il y a eu une vie extraordinaire. Et ça reste encore relativement sauvegardé. Et puis moi, je suis plus à l'aise parce que c'est le quartier des gens un peu plus âgés. À Shibuya, moi je suis perdu parmi les petites filles en jupette.
J'avoue.
Des couleurs. Je sais plus où mettre. Donc, après que ça, nous allons sauter et nous allons passer un peu plus loin à un mot qui sera demain. Ashita. Je vous ai dit que le OU est facilement muet. De même, le I devient lui aussi muet entre deux consonnes sourdes. Donc, je ne vais pas dire, pour dire j'y vais demain, je ne dirai pas Ashita. Ashita.
Ashita.
Ashita. Ashita. J'y vais demain. Ashita ikimasu. Ashita ikimasu. Dans les chansons, oui. Parce qu'on est tir. Donc là, il faut y aller. Ashita. Mais dans la conversation courante, le i devient muet. Par conséquent, quand je dis, ya, ashita. Bon, à demain. Hein. Ya, ashita. Ashita, ashita.
Matashita, ça.
J'entends. Ashita.
Matashita.
Ashita. Donc, à nouveau, attention à la prononciation. Quand j'ai le i devant, entre deux consonnes sourdes. Les consonnes sourdes, c'est sur un tableau bien fermé du mot. Hein. Consonnes sonores, c'est en dessous. Vas-y, là. De même, j'attire votre attention sur la ligne suivante. Cette fois-ci, un peu, on descend et je vois le mot Kotsushita.
Qu'est-ce qu'il
y a ? Kotsushita.
Oui, les chaussures.
Kotsushita.
Les chaussures.
Kotsushita.
C'est les chaussures. Chaussures et shita, c'est en dessous. C'est sous la chaussure, quoi. Pourquoi c'est les chaussures ?
Putain, j'entends plus, là.
C'est les chaussettes.
C'est très bizarre quand je réfléchis. La chaussure traditionnelle japonaise, le pied est posé dessus. Et geta, en bois, ouais. Avec une hauteur comme ça, mais parfois comme ça. Les courtisanes, c'est comme ça. Moi. Les... C'est pour se protéger de la pluie. Hein. Plus c'est haut, plus on, ben, on salit pas le kimono. Et donc, comme s'il n'y avait pas, il n'y avait ni pavé, ni goudron hein, sur le sol. C'était la terre. Comme il pleut beaucoup au Japon, on est vite dans la boue. Et le bon kimono, il faut quand même le soulever. Donc les guetas ont l'avantage de pouvoir ne pas avoir les pieds couverts de boue. Et donc, comme on a
des chaussures comme Jiraya.
De même, ce qu'on appelle nous les tongs, hein, le modèle du japonais, les tongs.
Ouais, c'est ça, je pense que c'est
le tong. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit Kutsushita ?
Kutsushita ?
Est-ce parce que le mot Kutsushita est une traduction de l'Occident et effectivement la chaussette de la chaussure occidentale ?
Soquette.
C'est mon explication. Parce qu'avant, ils avaient des sortes de chaussettes, des tabis, mais il n'y a pas la chaussette telle qu'on la connaît. Donc, la prononciation, ce n'est pas Kutsushita, Kutsushita, c'est Ku va être muet, Tsu va être muet, et Shi aussi, Kutsushita. Ah, Kutsushita au Kaitai. Je voudrais acheter des chaussettes. Surtout qu'au Japon, pour les filles, il y a maintenant, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, des espèces de petites choses en soie très fines qu'on met entre la chaussure et son bas pour ne pas abîmer ses pieds. On les voit sortir de la chaussure. C'est pas encore arrivé ici. Si. Ça s'appelle comment ? Ça arrive, ça se vend maintenant. Au Japon, presque toutes les femmes maintenant ont. Vraiment, une jeune fille, une espèce de petite chaussette en soie transparente, juste au bord de la chaussure. Pour pas que le cuir de la chaussure. Je sais pas quoi. Est-ce que c'est l'heure ?
Oui.
Oui ? Oui ou non ? Alors, on est. Merci.